Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité, qui depuis le premier jour jusqu'à maintenant a contribué à l'annonce de l'Évangile, et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur. Car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez pur et irréprochable au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. On va prier. Père Céleste, aide-nous par ton Esprit Saint à saisir le sens et la pertinence de ce que nous avons entendu dans l'Écriture. Ouvre notre cœur, ouvre nos oreilles, Seigneur, et donne-nous un cœur réceptif. C'est notre prière en Jésus. Amen. Merci de garder ce texte devant vous. Oui, tu peux m'envoyer ça dans un texto? Oui, désolé, je dois te laisser. Il y a quelqu'un qui essaie de me joindre sur WhatsApp. Et j'ai besoin de terminer ce mail avant la réunion par Skype. Aujourd'hui, on prend pour acquis les nombreux moyens de communication que nous avons à notre disposition. La plupart desquels n'existaient même pas il y a 30 ans. Moi, je me souviens quand j'étais petit, l'idée qu'on pouvait avoir une conversation vidéo avec un appareil qu'on tenait dans la main, c'était de la science-fiction. C'est, dans l'avenir, ce serait comme ça. Aujourd'hui, c'est totalement banal. C'est extraordinairement facile de contacter, d'être en communication avec quelqu'un qui est loin, même de l'autre côté de la planète, de façon instantanée, directe. Alors, c'était quoi la dernière fois que vous avez écrit une lettre à la main ? Pour envoyer à quelqu'un. Ça remonte quelques temps. Ouais, c'est presque une espèce en voie de l'extinction ces jours-ci. Quoique, ça peut donner un certain poids. S'il y a certaines occasions, on se dit, tiens, envoie un mail, c'est un peu léger. Même taper sur l'ordinateur, l'imprimer, envoyer. Si je veux vraiment, si c'est un sujet délicat ou important, je prends le temps d'écrire à la main pour montrer que je prends la chose au sérieux. Mais avant l'invention du téléphone, si on voulait maintenir une relation avec quelqu'un qui n'était pas là, physiquement présent, quelqu'un qui était loin, en fait, envoyer des lettres, c'est comme ça que ça se faisait. Et souvent, ces lettres étaient gardées, conservées. J'imagine que vous avez peut-être chez vous des lettres écrites à la main que vous avez gardées chez vous. Et souvent, en fait, on apprend beaucoup de choses quand on regarde les vieilles lettres. On apprend des choses sur la personne qui les a écrites, sur les personnes à qui ces lettres ont été écrites. Nous allons regarder ensemble une lettre qui a été conservée pendant très très longtemps, presque 2000 ans, écrite par un homme, Paul de Tarse, qui a écrit non pas à un membre de sa famille, ni à un ami, mais à une église, à des chrétiens, dans la ville de Philippe. Et cette lettre nous est importante, non seulement parce qu'on y voit plein de choses, on apprend des choses sur Paul, on apprend des choses sur les Philippiens, sur ces chrétiens, mais puisque Paul était apôtre, donc quelqu'un, un des petits nombres d'hommes que Jésus a choisi lui-même pour être ses témoins officiels, ce qu'il a écrit dans cette lettre fait partie aussi de l'Écriture. Donc ça fait partie de ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, inspiré par le Saint-Esprit. Donc qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas encore convaincu, ben, nous devons écouter ce que Paul a écrit. Mais qu'est-ce qu'il dit dans ces premières phrases? Si on regarde le texte, il y a voilà, une salutation brève, verset 1, où il dit, voilà, c'est moi, Paul, qui ai écrit. Ah, il y a Timothée qui est à mes côtés. Et à qui il écrit? Les Philippiens, les chrétiens, ceux qui sont unis à Jésus, membres du peuple saint qui vivent dans la ville de Philippe. On voit que c'est une église qui a une certaine structure. Il y a des dirigeants, des diacres, des personnes nommées pour des responsabilités. Et puis, un peu un vœu de grâce et paix à ces chrétiens, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Et une fois qu'il commence vraiment dans sa lettre, toutes les autres phrases que nous avons entendu concerne la prière. Et en particulier, ce que Paul prie, ce que Paul dit à Dieu pour les Philippiens, concernant les Philippiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça quand nous l'avons entendu. Verset 3, j'exprime à Dieu ma reconnaissance. Verset 4, je prie pour vous tous. Verset 5, oui, je remercie Dieu. Et puis, un peu plus loin, verset 9, si on tourne la page, « Et voici ce que je demande dans mes prières. » Paul, c'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu, qui s'exprime par la parole. Il remercie Dieu pour des choses. Il demande des choses à Dieu. Et avant d'aller plus loin, est-ce que je peux vous poser cette question? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez pour vous-même? Est-ce que vous parlez à Dieu pour lui dire merci, pardon, s'il te plaît? Peut-être pour certains, la prière, ça fait déjà partie intégrante de votre vie. Vous ne pouvez pas imaginer ne pas prier. Pour d'autres, peut-être que c'est plutôt une lutte. On sait qu'on a envie, mais c'est dur. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Et peut-être pour d'autres, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, personnellement. Paul nous montre qu'une relation personnelle avec Dieu est possible. Nous pouvons parler à Dieu et il nous entend. Et je crois que nos prières sont assez révélatrices. Si je pouvais écouter quelqu'un qui priait, entendre les choses pour lesquelles il remerciait Dieu, les choses qu'il demandait à Dieu, je pense que j'aurais une assez bonne idée des priorités de cette personne. de ce qui était important pour elle, quelles étaient ses valeurs fortes. Et ici, Paul volontairement écrit aux Philippiens ce qu'il prie pour eux. Paul n'a pas peur de se dévoiler, d'expliquer ce qu'il dit à Dieu à leur sujet. Et en ce faisant, il révèle ce qui est important pour lui. Donc, qu'est-ce que Paul prie? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu à leur sujet? On va regarder deux types de prières différentes. D'abord, les choses pour lesquelles Paul remercie Dieu. Les prières de reconnaissance, d'action de grâce. C'est dans les versets 3 à 8. Alors, pourquoi Paul remercie-t-il Dieu? Quelle est sa raison principale qu'il dit ici? La réponse est la solidarité des Philippiens avec lui pour l'Évangile. Paul remercie Dieu pour la solidarité des Philippiens avec lui pour la cause de l'Évangile. Paul, il est loin de la ville de Philippe. Il est en prison au moment où il a écrit cette lettre. On pense vraisemblablement qu'il est à Rome. Il est en prison. Mais il pense souvent à ses chrétiens. Et chaque fois qu'il pense à eux, le souvenir le pousse à remercier Dieu, à dire merci. Et ses prières pour eux, verset 4, c'est toujours avec joie que je le fais. C'est pas difficile, pénible pour lui de prier pour eux, c'est avec joie qu'il remercie le Seigneur. Et quelle est la raison pour cette gratitude, pour cette joie? Verset 5 l'explique. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. C'est puisqu'ils sont en partenariat avec Paul. Et ils ont été, depuis le premier jour, le jour où ils ont entendu cet Évangile, le message de Jésus, ils ont cru, ils ont été partenaires. Ils ont partagé avec Paul ce zèle pour l'annonce de l'Évangile. Et ils voulaient participer à ce que Paul faisait. Alors Paul, il bougeait pas mal, il allait de ville en ville, il faisait des voyages missionnaires. Les Philippiens, en fait, ont participé en envoyant du soutien, des dons à Paul pour qu'il puisse continuer son travail dans de bonnes conditions. Et en fait, une des raisons pour laquelle Paul écrit, c'est pour les remercier pour des dons qu'ils viennent d'envoyer. Donc les Philippiens, ils sont vraiment derrière Paul et son travail, ce qu'il fait pour l'Évangile. Ils partagent, ils sont participants avec Paul dans cette œuvre. Et Paul voit que c'est un signe que leur foi est authentique. Et c'est pour cela qu'il peut dire, verset 6, « Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, c'est Dieu, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Le jour de Jésus-Christ veut dire le jour où Jésus reviendra, le jour du jugement, où les croyants vivront avec Jésus à jamais dans la gloire. Il dit, votre foi, ce n'est pas simplement une décision humaine, c'est l'œuvre de Dieu en vous. Dieu, il a commencé cela, et en voyant comment vous êtes, je suis persuadé que Dieu, il va continuer cette œuvre jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis, à partir du verset 7, Paul, il explique un peu plus la manière dont ils sont participants avec lui. Comment ils partagent la chose, pas seulement les réussites de l'annonce de l'Évangile, ouais, il y a de nouvelles églises qui se créent, plein de gens qui mettent leur foi en Christ, mais aussi les difficultés. Paul dit, au milieu du verset 7, « Vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. » C'est facile d'être partenaire quand tout va bien, quand ça réussit, quand il n'y a pas d'obstacle, mais les Philippiens, en fait, restent avec Paul, partenaires avec lui, même dans les moments durs. Paul, il se fait mettre en prison, il ne peut plus bouger, il ne peut plus aller visiter les églises, il ne peut plus annoncer l'Évangile en public, mais en même temps, comment Paul décrit cela? Il dit, vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Pour lui, tout ce qu'il fait, qu'il soit enchaîné, qu'il soit libre, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu de pouvoir faire ce qu'il fait. Et les Philippiens partagent avec lui cette grâce, en étant solidaires, en étant ses partenaires. Et à cause de cela, Paul, il a des sentiments tellement forts. Regardez ce qu'il dit à leur sujet. Verset 7, « Tels sont mes sentiments envers vous tous. Vous occupez une place particulière dans mon cœur. » Au milieu du verset 7. Et verset 8, « Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. » En fait, même le mot « aimer », c'est un peu faible ici. C'est je vous chéris. Il y a cette ardeur pour les Philippiens. Paul, c'est un être humain qui est rempli d'émotions. Il est passionné pour ses chrétiens. Ils sont tellement chers à son cœur. Et Paul, il remercie Dieu que c'est le cas. Il dit merci, Seigneur, que j'ai tellement de raisons d'être joyeux quand je vois ces chrétiens et comment ils sont participants avec moi dans cette œuvre. Il y a certains types de partenariats dans ce monde qui sont capables de créer des liens assez forts entre les gens. Pour la petite histoire, mon père, il était médecin généraliste. Il a travaillé 31 ans dans le même cabinet, dans la même ville. Quand il est parti à la retraite, ils ont fait une fête, mais incroyable. Ils ont préparé des chants, des danses. Je pense qu'il y a des gens qui ont pleuré. Il y a des collègues avec qui il a travaillé pendant toutes ces années. Et vous imaginez les liens qui se créent sur trois décennies de travail partagé. Sans doute les joueurs de l'équipe de France qui ont remporté la Coupe du Monde, cette expérience a dû forger des sacrés liens entre les joueurs qui peut-être ne se connaissaient pas trop auparavant. Mais ce que Paul décrit ici va encore plus loin. Des liens entre les gens qui sont encore plus forts, des émotions qui sont si fortes. Qu'est-ce qui a pu créer un tel lien entre Paul et les Philippiens? C'est à leur foi commune en le Seigneur Jésus-Christ. C'est leur désir partagé de voir cet évangile, ce beau message, se répandre sur toute la terre. Et donc c'était important pour Paul de dire, d'écrire aux Philippiens et dire, c'est ça la situation. Voilà, votre partenariat avec moi, c'est quelque chose de tellement précieux. Je remercie le Seigneur, je suis dans la joie quand je pense à vous, chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu et je veux vous encourager en vous décrivant comment c'est pour moi. Et écrire cette lettre, ça fait partie d'entretenir, d'encourager les Philippiens dans ce partage, dans cette solidarité avec lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Tiens, on fait Paul et les Philippiens, d'accord, ben ça c'était eux, ça c'était longtemps, mais allons-nous, nous aujourd'hui? D'abord, si pour le moment vous hésitiez quant à la foi chrétienne, d'accord, peut-être vous êtes curieux, vous aimeriez savoir un peu plus, mais vous ne savez pas pour le moment si c'est pour vous ou pas. Je crois que ce que Paul dit ici, c'est très révélateur. Parce que ça montre que croire en Jésus, ce n'est pas simplement accepter une croyance et faire une activité religieuse. Ce n'est pas juste aller à l'église le dimanche, sans que ça ne change rien du reste de la semaine. Paul dit, l'évangile, le message de Jésus, c'est tellement fondamental, c'est quelque chose de tellement important, que quand on le découvre, et quand on y croit, ben ça change tout. Ça transforme la vie, ça transforme les relations, surtout les relations avec d'autres croyants, et ça crée des partenariats, ça crée une solidarité qui va bien au-delà de l'ordinaire, qui va au-delà de ce que mon père a vécu avec ses collègues, qui va au-delà de ce que l'équipe de France a vécu cet été. Puisque la perspective, c'est l'éternité. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la foi chrétienne. Et c'est une source de grande joie. Donc, si vous êtes curieux, si vous n'êtes pas encore convaincu, ne vous trompez pas sur ce que c'est être chrétien, sur ce que c'est la foi. Ce n'est pas juste une activité religieuse qu'on ajoute à notre agenda. Tiens, je bloque 2 heures dimanche matin. Non, c'est beaucoup plus fort. Et si vous êtes chrétien, alors permettez-moi de vous poser la question, est-ce que vous avez déjà vécu ce que Paul décrit d'une certaine manière? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Je me souviens, une fois, Rachel et moi, nous avons été animateurs pour une colonie chrétienne pour les adolescents pendant l'été. Et après une de ces colonies, nous avons reçu une carte postale de celui qui a organisé la colo pour nous remercier. Et je me souviens toujours de ce qu'il a écrit. La manière dont il a dit, il a dit, je remercie Dieu pour vous deux, non pas forcément parce que vous avez des dons, des talents que vous avez mis au service de la colonie, quoique c'était le cas, c'était vrai, mais parce que votre vie porte les marques de la grâce incroyable de Dieu. Oh. Ça m'a touché. Il est en train de m'écrire pour me remercier, mais en fait, il remercie Dieu pour ce que Dieu a fait dans notre vie, qu'il a vu lors de la colonie. Et c'était très similaire, je pense qu'il s'est inspiré de la façon dont Paul a écrit ici. Je remercie Dieu pour le partenariat, pour la solidarité que nous avons dans l'Évangile. Est-ce que c'est ça le type de prière qu'on pouvait apprendre à prier pour les chrétiens que nous connaissons, les chrétiens avec qui nous sommes solidaires dans l'Évangile? Et peut-être, pourquoi pas, leur dire aussi, dire à ces chrétiens, je remercie Dieu pour vous. Je remercie Dieu pour la joie que j'ai de savoir que nous sommes ensemble pour l'Évangile. Donc ça, c'est la première partie, une prière de reconnaissance au sujet des Philippiens. Et la deuxième partie, versets 9 à 11, c'est un autre type de prière. Et cette fois, Paul demande des choses pour eux. Qu'est-ce que Paul demande pour les Philippiens ? La croissance dans l'amour, dans le discernement et dans les œuvres bonnes. La croissance dans l'amour, le discernement et dans les œuvres bonnes. Paul, quand il prie Dieu, il croit que Dieu est vivant, il est puissant, il agit dans le monde. Et donc Paul peut demander des choses à Dieu. Et la première chose qu'il demande, c'est que votre amour gagne de plus en plus, ou augmente, croisse de plus en plus. Alors, ce mot amour peut dire beaucoup de choses aujourd'hui. Pour Paul, dans le contexte de cette lettre, l'exemple de l'amour, celui qui nous a aimés au-dessus de tout, c'est le Seigneur Jésus. Et comment il nous a aimés? En se donnant pour nous, pour notre bien, en s'humiliant jusqu'à la croix pour notre pardon. Et donc, pour Paul, aimer, avoir cet amour, c'est servir humblement les autres, agir pour le bien des autres. Et on en a parlé un peu la semaine dernière. Cet amour n'est pas naturel. C'est un amour qui vient de Dieu. Et c'est l'expression de la foi, puisque nous cherchons à aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Et les Philippiens ont déjà de l'amour. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas du tout d'amour, mais Paul prie pour une augmentation, une croissance de cet amour parmi eux. Il veut que Dieu augmente l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Mais ce n'est pas la seule chose que Paul demande à Dieu. Parce qu'il prie que cet amour soit guidé par la pleine connaissance et en parfait discernement. Peut-être que ça le surprend, mais l'amour, c'est voilà, le cœur, les sentiments pour les autres. Et la connaissance, le discernement, moi, ça c'est la tête. Ça c'est voilà, l'intelligence, etc., l'esprit. Est-ce que ça ne suffit pas juste d'avoir beaucoup d'amour? Si les Philippiens avaient simplement plein d'amour, ça aurait suffi, non? Pourquoi ils ont besoin de connaissances et de discernement? Paul explique juste après dans le verset 10, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Pour que vous puissiez discerner ce qui est important. La vie, c'est compliqué. Il y a tellement de choses dans lesquelles nous pouvons investir notre énergie, plein de façons différentes dont nous pouvons aimer les autres. Mais Paul dit, il y a des choses qui comptent vraiment et d'autres choses qui sont moins importantes. Et en fait, ça, ce n'est pas évident à tout le monde. Ça demande de la sagesse, du discernement, pour faire la part des choses, pour faire le tri entre ce qui est prioritaire, essentiel, important, et ce qui est secondaire. Ce qui n'est pas essentiel, ce qui est moins important. Et c'est ça que Paul prie pour les Philippiens. Beaucoup d'amour, mais un amour qui est guidé, dirigé par le discernement de ce qui est vraiment important, de ce qui compte vraiment dans ce monde et dans cette vie. Et dans la phrase qui suit, nous voyons que la perspective de Paul est encore une fois le jour du Christ, le jour où Jésus reviendra. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Paul dit, un jour, quand Jésus reviendra, tout ce qu'on aura fait dans cette vie sera vu à la lumière de la personne et du royaume de Jésus. C'est lui qui va faire l'évaluation de ce que chaque personne aura fait de sa vie. Ce qui a une valeur éternelle et ce qui a finalement, à ses yeux, peu de valeur. Et l'objectif de Paul, son souhait, ce qu'il veut, c'est que ce jour-là, grâce à leur discernement, les Philippiens n'auront pas investi leur amour dans des choses qui n'ont que peu de valeur aux yeux de Jésus. Il veut que les Philippiens apparaissent devant lui, chargés, littéralement remplis, d'œuvres bonnes, ce fruit que Jésus aura produit en eux. Et cela, non pas pour leur gloire, mais pour la louange et la gloire de Dieu. Donc, bien que Paul prie pour les Philippiens, les gens pour qui il a des sentiments très forts, les gens qui lui sont très chers, son but ultime n'est pas centré sur eux, mais sur la gloire de Dieu, la louange de Dieu. J'ai entendu une fois que on peut voir plus facilement ce qui est important pour quelqu'un en regardant ses souhaits, ses espoirs pour ses enfants. Avec quelqu'un qui dit, oui, pour moi, l'argent secondaire. C'est pas ça. Et quand on entend ce qu'il dit à son fils, voilà, il faut bien travailler à l'école pour dénicher un bon travail pour pouvoir acheter son pavillon. Si tu fais ça, alors mon fils, tu auras réussi. C'est là où on voit un peu les vraies valeurs, les priorités des gens, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils espèrent pour leurs enfants. Je veux que mon enfant aille à l'université, qu'il fasse des grandes études. Autrement dit, pour moi, l'éducation, c'est important. Le diplôme, c'est important. La connaissance ou le savoir, c'est important. Je veux que mon enfant ait un travail bien payé. C'est la sécurité financière qui est importante pour moi. Je veux que mon enfant ait beaucoup d'amis et beaucoup d'amour dans sa vie. Donc, pour moi, les relations sont importantes. Ce qu'on espère pour ses enfants, ça montre un peu ce qui est vraiment les valeurs fortes pour nous. Là, dans sa prière, nous voyons ce qui est important. Pour l'apôtre Paul, ce qu'il veut plus que tout pour les Philippiens, une vie vécue à la lumière du jour de Christ. Une vie d'amour, de discernement et d'œuvres bonnes à la louange et à la gloire de Dieu. C'est ce qu'il considère être le plus important, donc c'est ce qu'il prie pour eux. Et Dieu, comment va-t-il exaucer cette prière? Réfléchissons un instant. Paul y prie cela. Comment Dieu va-t-il exaucer? Je pense que Paul sait que déjà sa lettre va jouer un rôle dans l'exaucement de la prière. Les Philippiens, maintenant qu'ils savent ce que Paul prie pour eux, ils sont déjà encouragés à chercher cet amour, ce discernement, cette vie d'œuvre bonne. Mais comme dit Paul, ce n'est pas simplement le fruit d'efforts humains, parce qu'il dit, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous. C'est cette œuvre bonne que Dieu a déjà commencé en eux et qui va continuer jusqu'au bout. Mais les Philippiens vont chercher activement ces choses parce qu'ils savent. C'est ça que Paul prie pour nous. C'est ça qui est important pour lui. Ça doit être important pour nous aussi. Cette prière de Paul pour les Philippiens, c'est une des prières dans la Bible, comme le Notre Père, la prière que Jésus a donnée à ses disciples, que nous pouvons prendre et prier telle qu'elle. Quand nous ne savons pas que prier pour quelqu'un d'autre dans l'Église, on peut demander à Dieu les mêmes choses que Paul a demandé ici. La croissance dans l'amour, le discernement pour savoir faire la part des choses, savoir ce qui est vraiment important, et des œuvres justes, l'expression de la foi. Ça, c'est une prière qui est alignée à la volonté de Dieu et que Dieu prend plaisir à exaucer. Est-ce qu'on va prier cette prière les uns pour les autres cette semaine et dans les semaines à venir. Mais nous pouvons aussi nous inspirer de l'esprit de cette prière de Paul pour prier les choses pour les gens selon ce qu'on connaît de leur situation. Alors, je m'explique. Paul, il connaissait bien les Philippiens. Il savait ce qui se passait dans cette église. Et il y a des choses pour lesquelles il n'a pas prié, il n'a pas demandé, parce qu'il savait que ce n'était pas problématique. Ce n'était pas leur plus grand besoin. Donc, ce que Paul savait des Philippiens a façonné, influencé ce qu'il a demandé à leur sujet. Et donc, quand on prie pour les autres, on peut prendre en compte ce qu'on sait de leur situation, mais aussi nous inspirer de la perspective de Paul qui est le jour de Christ, cette perspective éternelle. Et aussi le but ultime que Paul avait, c'était la louange et la gloire de Dieu. Pas simplement le bien-être ou le confort de l'autre, mais la louange et la gloire de Dieu. Et de cette manière, nous pouvons laisser ces versets de la Bible façonner et inspirer les prières que nous pouvons prier les uns pour les autres. Qu'est-ce que je connais de sa situation ? Comment la perspective de l'éternité, le retour de Jésus et la gloire de Dieu, comment ça peut façonner ce que je demande à Dieu pour mon frère en Christ, ma sœur en Christ. Donc pour conclure cette semaine avec tous les moyens de communication que nous avons, les mails, les textos, les appels, les Skype, n'oublions pas ce moyen très simple que nous pouvons entrer en contact avec notre Père Céleste, simplement en lui adressant la parole. Et souvenons-nous de la manière dont Paul prie ici. Quand on prend ne serait-ce que 5 minutes pour prier Dieu, il se dit, tiens, Paul, comment il a prié ? Avec ce qu'il a remercié, ce pour lequel il a remercié Dieu, les choses qu'il a demandées pour les Philippiens. On peut nous inspirer de Paul. On dit, tiens, je vais prier comme Paul. Je vais remercier Dieu. Je vais prier les choses pour les autres. Et nous inspirer de son exemple.